Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite, hein, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Biotine, c'est l'émission qui fait un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique pour se tenir un petit peu informé de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier, en tout cas dans les laboratoires qui communiquent bien sûr, et c'est par le biais de ces communications qu'on essaie un petit peu de comprendre l'avancée de la recherche scientifique dans différents domaines. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, 16 mars, au niveau de l'éphéméride, eh bien, c'est en 1966 que le 16 mars a lieu le lancement de la cabine spatiale américaine Gemini 8 avec deux astronautes à bord, Neil Armstrong et David Scott. C'était en 1966. Naissance, un 16 mars 1789, de George Simon Ohm, physicien allemand. Ah, Ohm, O-H-M, ça nous dit quelque chose. Professeur de l'université, Ohm, il a commencé ses travaux de recherche par une étude sur la cellule électrochimique qui était récemment inventée par Volta. Et en utilisant du matériel de sa propre invention, Ohm a découvert l'existence d'une relation de proportionnalité directe entre la différence de potentiel appliquée aux bornes d'un conducteur et le courant électrique qui le traverse. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi d'Ohm. Ah oui, on avait bien appris ça pendant nos cours de physique. Ces résultats expérimentaux lui ont permis de déterminer les relations fondamentales entre le courant, la tension et la résistance électrique, ce qui constitue le début de l'analyse des circuits électriques. Et du coup, eh bien, Ohm, on connaît ce nom parce que c'est bien sûr une unité de mesure de résistance électrique qui a donc été nommée en son honneur. L'Ohm est donc George Simon Ohm, est donc né un 16 mars 1789. Décès le 16 mars 1854 de Charles-François Beautemps-Beaupré. C'est un ingénieur hydrographe et cartographe français, membre de l'Académie des sciences. Il est considéré comme le père de l'hydrographie moderne. Il a été nommé ingénieur hydrographe et il a dirigé pendant plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes entre les années 1814 et 1838. Il a dirigé la rédaction des nouvelles cartes des côtes de la France. Et donc, avec Charles-François Beautemps-Beaupré, eh bien, commence l'ère des levées côtières méthodiques. Et sous sa direction, eh bien, le service hydrographique va entreprendre un nouveau levé complet des côtes nord et ouest de la France. Charles-François Beautemps-Beaupré, qui est donc décédé à Paris le 16 mars 1854. Au niveau de l'actualité scientifique, une étude a été menée qui montre qu'en Europe et en Amérique du Nord, 30 à 60% de l'apport énergétique alimentaire des adultes provient d'aliments qui sont qu'on appelle ultra transformés, hein, donc au niveau de l'industrie agroalimentaire. De plus en plus d'études épidémiologiques suggèrent un lien entre une consommation élevée d'aliments ultra transformés et un risque accru d'obésité, de maladies cardio-métaboliques et de certains cancers, et notamment au niveau des émulsifiants. Les émulsifiants, ils figurent parmi les additifs alimentaires les plus couramment utilisés dans ces aliments. Ils sont souvent ajoutés aux aliments industriels transformés et emballés, notamment dans les pâtisseries, des gâteaux, des desserts, des barres chocolatées, le pain, la margarine, les plats préparés. L'idée, c'est d'améliorer leur apparence, c'est d'améliorer leur goût, la texture et aussi la durée de conservation. Et ils comprennent notamment ce qu'on appelle des mono- et des diglycérides d'acide gras, des caragénanes, des amidons modifiés, des lécithines, des phosphates, des gommes, des pectines, bref, un petit peu tout ça. Et comme pour tous les additifs alimentaires, la sécurité des émulsifiants a été évaluée sur la base de preuves scientifiques qui étaient disponibles. À l'époque, pourtant, il y a certaines recherches récentes qui suggèrent que les émulsifiants pourraient perturber le microbiote intestinal et augmenter le risque d'inflammation, ce qui pourrait potentiellement favoriser la survenue de certains cancers. Pour la première fois au niveau international, il y a une équipe de l'INSERM, de l'INRAE, de l'université Sorbonne-Paris-Nord, des universités de Paris-Cité, du CNAM, et ils sont regroupés au sein d'une équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle qui s'est intéressée, donc toutes ces équipes se sont intéressées aux relations entre les apports alimentaires en émulsifiant et le risque d'apparition de plusieurs localisations de cancer. Dans une grande étude en population générale, c'est ça qui est intéressant, les résultats sont fondés sur l'analyse de données françaises de plus de 92 000 adultes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un panel assez large et ça, comment dire, c'est aussi sur une durée assez longue entre 2009 et 2021. Et tous les résultats ont été publiés dans la revue PLOS Medicine. Les participants ont renseigné en ligne tous les aliments et les boissons consommés, leurs marques également pour les produits industriels, et cela sur au moins 3 journées d'enregistrement alimentaire, avec la possibilité de réactualiser leurs données de consommation tous les 6 mois. Ces enregistrements ont été mis en relation avec des bases de données afin d'identifier la présence et la dose des additifs alimentaires, dont les émulsifiants, dans ces produits qui ont été consommés. Et des dosages en laboratoire ont également été effectués pour fournir des données quantitatives. Et au cours du suivi, les participants ont déclaré la survenue de cancer et un comité médical a validé ces déclarations après examen des dossiers médicaux. Il y a plusieurs facteurs de risque bien connus pour les cancers. L'âge, le sexe, le poids, le niveau d'éducation, les antécédents familiaux, le tabagisme, l'alcool, l'activité physique, tout ça est bien sûr pris en considération. Et donc du coup on a vraiment un panel assez, comment dire, assez exhaustif, avec quand même des données qui sont quand même assez larges, assez intéressantes. Bref, tout ça pour dire que cette étude a quand même un potentiel assez intéressant au niveau des résultats. Après un suivi moyen de 7 ans, les chercheurs ont constaté que des apports plus élevés en monoglycérides et diglycérides d'acide gras étaient associés à des risques accrus de cancer au global, une augmentation de 15% du risque chez les plus forts consommateurs, et notamment de cancer du sein, de cancer de la prostate. D'autre part, les femmes ayant des apports plus élevés en caragénane avaient 32% de plus de risque de développer des cancers du sein par rapport au groupe ayant des apports plus faibles. Il s'agit de la première étude d'observation en la matière. Alors ça ne suffit pas elle seule à établir de lien de cause à effet, bien évidemment. Les auteurs soulignent certaines limites à cette étude. Par exemple, la proportion élevée de femmes dans l'étude, parce qu'on était à peu près sur 80% de femmes qui ont participé à cette étude. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un constat qui a été fait. Le niveau d'éducation plus élevé en moyenne et les comportements globalement plus soucieux de la santé parmi les participants à cette étude par rapport à la population française en général. Donc ça peut limiter la généralisation des résultats. Néanmoins, l'échantillon de l'étude était quand même de grande ampleur, comme je vous l'ai dit, et les auteurs ont pu tenir compte d'un large éventail de facteurs potentiellement confondant, tout en utilisant des données détaillées et uniques sur les expositions aux additifs alimentaires, allant jusqu'à la marque des produits industriels consommés. Donc on était quand même sur une précision assez intéressante. De plus, les résultats restent inchangés après de multiples analyses de sensibilité, ce qui renforce justement la robustesse de ces résultats et donc un petit peu, ça permet de leur solidité au niveau de l'argumentaire scientifique. Si ces résultats doivent être reproduits dans d'autres études à travers le monde, ils apportent de nouvelles connaissances clés au débat sur la réévaluation de la réglementation relative à l'utilisation des additifs dans l'industrie agroalimentaire. L'idée, c'est bien sûr de mieux protéger les consommateurs. C'est ce qu'explique Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, et Bernard Sour, professeur à l'INRAE, qui sont les deux principaux auteurs de cette étude. Et donc cette étude qui révèle un lien inquiétant entre les émulsifiants utilisés donc dans les produits transformés et plusieurs cancers. Voilà. Je vous ai bien plombé l'ambiance, je suis assez fier de moi, je suis désolé. Mais bon, c'est ça aussi Biotine, ça permet d'avoir, une idée assez, assez intéressante de l'état d'avancement des informations que l'on a pour essayer de comprendre certains liens, certaines, le cancer. On a des explications, peut-être pas toutes, mais si on arrive à avoir quand même des informations beaucoup plus précises sur les causes et comment se forment les cancers, on peut éventuellement trouver des façons plus rapides de pistes thérapeutiques intéressantes. Donc voilà, c'est une étude qui apporte des informations là encore. Et comme je vous l'ai dit, ce qui était intéressant, c'était d'avoir un panel assez large au niveau des données qui ont pu être traitées. Autre information, toujours pas nécessairement optimiste, on va dire. L'idée, c'est de travailler sur des bactéries qui ont survécu aux conditions sur Mars. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, dans sa tentative de comprendre sa place dans le cosmos, si elle est unique et seule ou pas, eh bien, on essaye de trouver des formes de vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire. Et on a longtemps pensé que Mars était très prometteuse à cet égard et même qu'elle pouvait être habitée. Mais on l'a déjà évoqué, on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Des instruments d'une sonde révélaient une absence de bouclier magnétique et ça confirmait la présence d'une atmosphère ténue et froide, peu propice à le fait d'avoir de l'eau liquide, si ce n'est sous forme de saumure éventuellement colonisable par certaines bactéries. Et encore, c'était pas totalement vérifié. En plus, vous avez sur Mars des rayons cosmiques, une absence de couche d'ozone pour pouvoir protéger contre les UV. Donc, ça va pas faciliter les choses si on a des formes de vie éventuelles sur la surface de Mars. De sorte que, depuis un certain temps, l'espoir de trouver des formes de vie sur Mars a été largement abandonné. Mais peut-être pouvait-on y trouver des micro-organismes, et c'est bien leur détection que l'on a tenté de faire dans les années 1970, déjà à l'époque, avec des missions qui s'appelaient Viking. Les résultats ont été décevants, mais aussi problématiques, avec une expérience qui avait été menée et qui a été conduite par les atterrisseurs sur Mars. Ça ramenait des images où on se disait qu'il y avait peut-être de l'eau liquide il y a 3 milliards d'années. On avait parlé dans cette émission où des images qui ont été rapportées de Mars pouvaient montrer comme des genres d'écoulements importants d'eau liquide qu'il aurait pu y avoir il y a 3 milliards d'années sur Mars. Mais depuis, eh bien, on a continué quand même à mener les études et pour étudier un petit peu sur Terre des formes de vie sous forme de bactéries dans des conditions similaires à celles que l'on pourrait trouver sur Mars, notamment en Antarctique et en Arctique, et même dans des déserts arides et froids de l'Amérique du Sud en haute altitude, là où le rayonnement ultraviolet est plus intense. Et on a ainsi, et c'est ça qui est important dans cette étude, découvert des bactéries capables de résister à des doses incroyablement élevées de rayons cosmiques. On a fait des expériences et on s'est rendu compte que ça a survécu à une irradiation équivalente à celle qu'elle aurait reçue à une dizaine de centimètres sous la surface de Mars pendant 1 million d'années. C'est-à-dire que ces bactéries, qu'on appelle des bactéries méthanogènes, élevées dans des conditions similaires à ce qu'il y a sur Mars, ont montré une certaine résistance. Et on apprend depuis quelques semaines dans un article publié dans la revue Astrobiology qu'une équipe internationale composée de spécialistes des radiations, de biologistes et d'experts en maladies infectieuses, ils ont découvert 4 types de bactéries capables de survivre à une exposition à l'environnement hostile de Mars. Je vous épargne les noms de ces 4 bactéries parce que c'est quasiment imprononçable, mais elles sont toutes les 4 connues pour infecter les humains et elles ont donc été mises dans des containers sur des sols artificiels similaires à ce que l'on peut avoir sur Mars, sans oxygène, à basse température et exposées aux radiations ionisantes. Non, c'est lâché sur ces bactéries. Eh bien, 3 de ces bactéries ont tout de même survécu pendant 21 jours. Et l'une d'elles semblait même se multiplier et prospérer. C'est Pseudomonas aeruginosa. Et elle, ça lui plaît bien, en fait, cet environnement. C'est quand même totalement inquiétant parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'exploration ou la colonisation humaine de Mars. Hein, je rappelle que c'est un objectif qu'on souhaite avoir dans ce siècle. Si on a des bactéries qui sont capables de pouvoir survivre à ces conditions totalement particulières sur Mars, ça ne va pas être nécessairement assez intéressant parce que des bactéries terrestres qui sont apportées par des missions habitées, elles pourraient muter au point de survivre particulièrement bien sur Mars et d'être mortelles pour les humains. C'est totalement fascinant quelque part de voir ces bactéries totalement résistantes sur des choses quand même assez complexes, je trouve. Mon Dieu, mais elles sont coriaces celles-ci. Allez, on écoute un peu de musique et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur Graphite. Mirage, c'était Molly Lewis sur l'antenne de Graphite. C'est doux, c'est agréable, ça fait du bien, je trouve, de temps en temps. Vous êtes bien sur Graphite. Et là, je vais vous emmener encore dans l'espace. Et on va parler du Soleil. Pour les étoiles, on sait que leur longévité, elle est conditionnée par leur masse. Plus elle est massive, plus sa vie est courte et se compte en une poignée de millions d'années. Et puis ça va s'achever par un violent feu d'artifice cosmique, ce qu'on appelle une supernova. Pour notre Soleil, eh bien, il en ira autrement. Le Soleil, c'est une étoile qui est une naine jaune. Elle a une espérance de vie totale d'environ 10 milliards d'années. C'est pas mal quand même. On en est où actuellement ? Alors, pour l'instant, le Soleil n'est âgé actuellement de 4 milliards 600 millions d'années. Donc, il devrait encore briller 5 milliards d'années d'après les estimations des astronomes. Ça nous laisse de la marge. Quoique, il faudra tout de même songer à déménager parce que la Terre va devenir invivable dans moins d'un milliard d'années. Bon, si on met de côté, bien sûr, l'actuel réchauffement climatique en cours. Alors, pourquoi ça deviendra invivable? C'est parce que la luminosité du Soleil va continuer de croître d'environ 10% tous les milliards d'années. Et donc, notre douce planète bleue, elle va devenir progressivement une étuve, un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète voisine Vénus. Et donc, la zone habitable de notre système solaire va se décaler. Et donc, on peut imaginer que l'homme aura migré vers Mars. Mars qui sera devenue plus douce. Mais si ça se faisait, ça ne va pas durer longtemps aussi. Faudra-t-il prendre la route vers d'autres étoiles, si tant est que l'espèce humaine en ait encore les moyens. Alors, avec le temps, les réserves d'hydrogène que le Soleil avait amassées à sa naissance vont s'épuiser. Pardon, d'une relative petite masse, eh bien l'étoile s'est maintenue durant des milliards d'années dans un équilibre entre gravité et rayonnement qui résulte de la fusion de l'hydrogène, mais viendra un jour où le carburant viendra à manquer. Et donc au cœur de l'étoile régnera alors un noyau d'hélium qui est créé par la fusion de l'hydrogène qui va s'effondrer sur lui-même. La température qui augmente en se comprimant libère de l'énergie qui va repousser les couches externes du Soleil. Et durant quelques 5 millions d'années seulement, l'astre va grossir considérablement pour devenir ce que les astrophysiciens appellent une géante rouge. Rouge parce que sa température de surface va baisser. Son rayon passera alors de quelques 700 000 km à plus de 170 millions de kilomètres selon une étude qui avait été publiée il y a une quinzaine d'années. On va y avoir un énorme gros soleil. Ce qui veut dire que Mercure, Vénus, mais aussi la Terre seront prises à l'intérieur, quand même. Elles seront bien sûr pulvérisées. Normalement, ça se passera comme ça. Comprimé, eh bien, le cœur d'hélium va se réchauffer et va parvenir à atteindre la température de 100 millions de degrés. Waouh, waouh, waouh. Et donc, dans ces conditions, l'hélium peut commencer à forger du carbone. Et ce sera alors ce qu'on appelle le flash de l'hélium, mais ça ne va pas durer longtemps et ça n'ira pas plus loin, car la masse restante du Soleil ne sera pas suffisante pour atteindre 600 millions de degrés au centre, une température requise pour embraser le noyau de carbone. Tout autour, bien, l'hydrogène et l'hélium vont brûler quelques milliers d'années, ça va faire peler notre étoile et ça va dilater davantage son enveloppe externe. Finalement, faute de rayonnement pour la contrebalancer, eh bien la gravité va l'emporter. Le reste du cœur de notre Soleil va se contracter. Ça va devenir une naine blanche, un corps de la taille de la Terre, extrêmement dense et chaud. Et pendant ce temps, eh bien les couches externes qui seront trop éloignées vont se diluer dans l'espace. Et durant environ 10 000 ans, l'enveloppe brillera de l'intérieur, va luire à la lumière du foyer central qui sera encore chaud. Ça donnera une nébuleuse planétaire. Alors, est-ce que ça deviendra visible depuis d'autres systèmes planétaires, ce que l'on peut voir dans nos télescopes, peut-être, on n'en sait rien. Nos descendants en exil dans quelques millions et millions et millions d'années pourront-ils observer le reste du Soleil autour duquel la vie avait fleuri? On n'en sait trop rien. Une étude publiée en mai 2018 a révélé que ce sera juste. Hein. De par sa masse, le Soleil se trouvera en effet tout juste à la limite de la luminosité. La nébuleuse planétaire serait donc visible, mais très très faible. Et après? Et bien après, est-ce que ce sera vraiment la fin? Non, parce que le cœur ardent mettra des milliards d'années pour se refroidir et devenir une naine noire. Voilà comment va se passer la mort du Soleil. En attendant, le Soleil a encore de beaux jours devant lui, nous aussi finalement, parce qu'on en est dans très très loin. Mais si on regarde à l'échelle, bien sûr, si on regarde à l'échelle humaine, 10 milliards d'années, c'est énorme, donc on ne peut pas du tout se projeter. Mais si on regarde à l'échelle justement cosmique, là on se rend compte que finalement, il va falloir à un moment quitter cette Terre, en fait, parce que ça ne sera plus possible. Elle va être englobée par le Soleil. Donc, ça serait intéressant de revenir sur Terre dans quelques millions et millions d'années pour voir comment l'homme aura réussi à contrer cette difficulté. Je trouve ça fascinant, en fait, de parler de la mort du Soleil, de savoir comment ça va se passer. Là, ce sont des suppositions encore, hein, quelque part. On est sur de la théorie, bien évidemment. Mais voilà, on a un petit peu toutes les étapes qui font que ce Soleil va grossir, grossir, et puis après, ça va devenir tout petit, extrêmement dense, et puis ça va mourir comme ça. Et avec des répercussions totalement désastreuses sur les autres planètes. On en parlera plus tard, on a le temps bien évidemment. Autre information concernant des scientifiques qui ont permis d'avoir des informations pour savoir comment le sol arrive à stocker le carbone qui est présent dans l'atmosphère. Une fois qu'il est aspiré par les végétaux, eh bien le carbone présent dans l'atmosphère, il est rejeté dans le sol par les racines. Et pour séquestrer ce carbone de manière durable dans le sol, il y a un mélange de molécules biologiques et de minéraux d'argile qui doit être présent et interagir entre eux. Cette recette magique, c'est un peu la clé de l'atténuation du réchauffement climatique, parce que sur Terre, les sols stockent actuellement l'équivalent de 10 fois la quantité de carbone présente dans l'atmosphère. Autant dire que si on arrive à bien les utiliser, les sols sont la solution principale pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais s'ils sont dégradés et qu'ils relâchent tout ce carbone, ou même simplement une partie, eh bien c'est une catastrophe d'ampleur inégalée qui nous attend. Les auteurs d'une étude qui est publiée dans la revue Proceedings of National Academy of Science, eh bien ces auteurs sont clairs. Nous devons tout mettre en œuvre pour conserver ce carbone dans les sols. Il est donc nécessaire de comprendre comment le mécanisme fonctionne. Et pour cela, la clé de la séquestration du carbone est principalement liée à ce qu'on appelle la smectite, une catégorie de minéraux argileux qui interagit avec tout un ensemble de biomolécules, des sucres, des acides, des protéines, du magnésium, du calcium. Et ces molécules, ces minéraux, ils s'attirent grâce à l'électricité statique et ce mélange permet ensuite de séquestrer le carbone. Le mélange en question est présent dans quasiment tous les sols du monde, mais en plus grande quantité dans les régions tempérées et semi-arides. C'est donc dans ces zones que le pouvoir de séquestration du carbone est le plus grand. Et en reproduisant en laboratoire la composition des sols qui permettent le plus de stocker du carbone, eh bien les chercheurs espèrent arriver à développer des moyens de stocker davantage de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important, parce que si on arrive à capturer même ce carbone, du coup on aura quand même une vraie, comment dire, des avancées vraiment intéressantes bien évidemment. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer comme ça, affecté. La revue de presse de l'actualité scientifique, vous êtes bien sur Graphite et vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Un peu de musique et on se retrouve juste après. Willing, c'était Say She She sur l'antenne de Graphite. C'est sympa, là, tous ces titres qu'on découvre et qu'on découvre sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Butine sur le 94.9 Graphite sur la bande FM, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir télécharger toutes les émissions de Graphite, bien sûr, sur graphite.net. Et puis vous suivez l'actualité de votre radio préférée sur les réseaux sociaux. On continue à feuilleter dans cette émission Biotine, la revue de presse de l'actualité scientifique, avec cette découverte de l'INSERM. Les pathologies allergiques sont un problème de santé publique mondiale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe l'allergie au quatrième rang des maladies chroniques les plus fréquente. Actuellement, environ 25 à 30% de la population souffre d'une forme d'allergie, qu'elle soit alimentaire, cutanée ou respiratoire. Ce chiffre pourrait atteindre les 50% d'ici 2050. Dans ce contexte, eh bien, chercher à mieux comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents aux allergies est nécessaire pour développer des traitements plus précis et plus efficaces. C'est l'objectif notamment d'une équipe toulousaine dont les récents travaux ont été publiés dans la revue Journal of Experimental Medicine. Les mastocytes, c'est justement sur ces cellules que cette étude a porté. Selon les pathologies, eh bien, le rôle des mastocytes est tantôt bénéfique, tantôt nuisible. Et on les divise en deux familles, les CMTC principalement présents dans la peau et les MMC plutôt présents dans la muqueuse intestinale. Et leur extraction difficile des tissus rend leur étude plutôt complexe. L'équipe toulousaine a utilisé une technologie assez innovatrice de séquençage en cellules uniques. L'idée, c'était d'analyser de façon plus précise les mastocytes chez la souris et chez l'homme. Et cela leur a permis de révéler qu'il n'existe non pas deux, mais 7 types différents de mastocytes, chacun ayant des caractéristiques et des fonctions distinctes. Ainsi, on a pu créer une espèce de cartographie des mastocytes humains. Cette cartographie permet de comprendre la diversité naturelle des mastocytes dans les pathologies allergiques. Les chercheurs prévoient de continuer à étudier les mastocytes dans divers contextes pathologiques pour enrichir cette cartographie et la rendre encore plus précise. Découverte capitale dans la lutte contre les allergies par l'INSERM, et ça, c'est véritablement intéressant. Toujours au niveau médecine, on va parler du cholestérol. Il existe deux principaux transporteurs de cholestérol dans le sang, les lipoprotéines de haute densité, HDL, responsables de son acheminement vers le foie pour son élimination, et les lipoprotéines de basse densité, les LDL, chargés de le distribuer aux cellules de l'organisme. Et les LDL sont souvent qualifiés de mauvais cholestérol en raison de leur association avec un risque accru d'événements cardiovasculaires. Et donc, pour contrôler ces taux de LDL, il y a des médicaments qui ont été développés, mais leur efficacité varie un petit peu en fonction des patients. Et puis, il existe aussi une lipoprotéine qui ressemble au LDL. Elle est encore plus préjudiciable pour les parois des vaisseaux sanguins et il n'existe pas de traitement pour faire diminuer son taux. Et donc, du coup, on a fait une étude qui a été publiée dans une revue de JAMA qui a porté sur une centaine de patients. Et cette étude a été réalisée pour évaluer la tolérance à un médicament qui a été développé justement. Et ce médicament, c'est la muvalapline, qui pouvait réduire les taux de manière significative de ces protéines. Et notamment, lorsqu'elle est administrée à des doses définies et administrées par voie orale, il n'y a eu aucune réaction indésirable notable qui a été observée pendant la courte période d'essai de 14 jours. Alors, là, on est sur un essai clinique de phase 1, parce que je vous ai dit une centaine de patients, 14 jours, là on tâtonne, on va dire, parce qu'on ne se lance pas dans un test de grande envergure, mais il y a des essais cliniques de phase 2 et de phase 3 qui sont encore nécessaires avant de confirmer ou d'infirmer l'intérêt de cette molécule dans la prise en charge de du cholestérol. En clair, néanmoins, ces résultats préliminaires marquent un pas assez intéressant et assez significatif vers une meilleure prise en charge de la santé cardiovasculaire. Voilà, il y a quand même parfois des informations assez intéressantes et assez optimistes dans Biotine. On continue toujours à parler des allergies, qui pourraient trouver leur origine dans l'intestin. Le microbiote qui n'a pas fini de faire parler de lui, c'est dernières années, la recherche médicale a mis en évidence le lien entre la composition des bactéries au niveau du microbiote intestinal et le lien avec divers problèmes de santé comme la dépression, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires de l'intestin ou encore les maladies cardio-métaboliques. Désormais, les chercheurs identifient dans l'intestin l'origine de certaines allergies infantiles majeures. La nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Nature Communications suggère que l'eczéma, l'asthme, les allergies alimentaires et le rhume des foins présentent une caractéristique commune, un déséquilibre des bactéries intestinales pendant la petite enfance. Pourtant, ces quatre types d'allergies ont des symptômes distincts. Il s'agit de diagnostics techniquement différents, chacun ayant sa propre liste de symptômes, de sorte que la plupart des chercheurs ont tendance à les étudier de façon séparée. C'est ce qu'explique Charles Peterson, qui est le principal auteur de cette étude. Mais lorsqu'on examine ce qui ne va pas au niveau cellulaire, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Alors pour l'étude, les chercheurs de l'Université du Canada, de l'Université de la Colombie-Britannique au Canada, ont suivi plus de 1000 enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Environ la moitié d'entre eux ne présentait aucune preuve d'antécédent d'allergie, tandis que l'autre moitié a été diagnostiquée avec une ou plusieurs allergies lors d'une visite médicale à l'âge de 5 ans. Et en parallèle, on a également travaillé sur les selles des nourrissons. Ça a été collecté à l'âge de 3 mois et de 1 an et on a analysé tout ça. Et les échantillons ont montré ce qu'on appelle une signature bactérienne spécifique chez les enfants qui avaient développé l'une des quatre allergies à l'âge de 5 ans. Elle est le signe d'un microbiote intestinal déséquilibré, lequel a dû engendrer une détérioration de la muqueuse intestinale et une réponse inflammatoire élevée dans l'intestin. Et la plupart des liens entre le microbiote et les différentes maladies semblent médiés par l'immunité. Or, chez le nourrisson, eh bien, la maturation du système immunitaire et du microbiote intestinal se produit en parallèle. Bien que ce processus de maturation coïncide généralement avec le développement d'une tolérance immunitaire saine, eh bien, une sensibilisation allergique peut apparaître chez certains enfants au cours de la même période où le microbiote se met en place, c'est ce qu'écrivent les auteurs. La mise au point de thérapie visant à modifier les interactions pendant la petite enfance pourrait donc prévenir le développement de toutes sortes de maladies allergiques pendant l'enfance et qui durent souvent toute la vie. Les maladies allergiques concernent des millions de personnes dans le monde, dont un enfant sur trois au Canada. Il est donc important de comprendre les raisons de leur apparition ainsi que les moyens de les prévenir. Mais donc voilà, on pourrait penser que les allergies pourraient trouver leur origine dans l'intestin. Voilà, pas mal d'informations au niveau médical, bien sûr. On a deux autres informations qui sont peut-être moins médicales, mais en tout cas qui donnent des informations pas nécessairement, mais des éléments assez, assez étonnants. Notamment cette étude qui est parue, je crois que c'était en janvier, ça a été repris dans plusieurs médias et je n'avais pas encore eu le temps d'aborder ce sujet-là. On sait que dans la nature, les mammifères utilisent des fluides corporels, ça peut être la sueur, ça peut être l'urine, pour transmettre des signaux chimiques sociaux. Et on pense que les larmes pourraient jouer ce même rôle. Il y a de nombreuses études qui ont mis en évidence des signaux sociaux dans les larmes de rongeurs et dont l'objectif serait de diminuer l'agressivité des animaux. Ainsi, dans les combats entre deux souris mâles, les larmes réduiraient le comportement agressif du mâle dominant envers le dominé. Chez l'humain, la recherche sur le sujet ne fait que débuter. Le professeur Noam Sobel et son équipe de l'Institut Weizmann des sciences en Israël, ils ont travaillé, ils ont émis l'hypothèse que les larmes humaines contiennent également des substances chimiques qui servent de signaux sociaux. Et les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue PLOS Biology. Alors, ils expliquent, nous avons montré que les larmes activent les récepteurs olfactifs et qu'elles modifient les circuits cérébraux liés à l'agression, réduisant de manière significative le comportement agressif. C'est ce qu'explique Noam Sobel. Ces résultats suggèrent que les larmes sont une couverture chimique offrant une protection contre l'agression et que cet effet est commun aux rongeurs et aux humains. Alors, les chercheurs ont mené deux types d'expériences sur des hommes exposés soit à des larmes de femmes, soit à des solutions salines témoins, sans pouvoir distinguer l'une de l'autre, car elles sont toutes inodores, pardon. D'un côté, il y a eu 6 femmes qui ont fourni ce qu'on appelle des larmes émotionnelles après avoir regardé des extraits de films tristes. Et puis, d'un autre côté, il y a eu 25 hommes qui ont été invités à réunifier l'une ou l'autre des solutions, donc soit une solution saline neutre, on va dire, soit des larmes de femmes qui venaient de pleurer. Et ils ont participé à un jeu monétaire conçu pour susciter un comportement agressif d'un joueur à l'égard d'un autre joueur. Résultat, les joueurs exposés aux larmes se sont montrés 43% moins agressifs que les autres. Dans la deuxième expérience, les chercheurs ont voulu connaître l'effet de l'inhalation des larmes sur le cerveau. Et environ le même nombre de participants a subi un examen d'imagerie spécifique, une IRM en fait, avec le même type d'expérience hein, de jeu. Et donc l'imagerie a montré que 2 régions du cerveau liées à l'agression étaient moins actives lorsque les hommes respiraient les larmes. En outre, il existerait une corrélation significative entre la condition expérimentale et l'activité dans ces régions. Selon les auteurs, les larmes de femmes contiennent un signal chimique inodore qui diminuerait les niveaux de testostérone et l'agressivité qui est associée. Alors, il est important de noter que ces chercheurs partent du prérequis qui accuse un niveau élevé de testostérone pour causer l'agressivité majorée chez les hommes, ce qui pourrait être une idée reçue. Par ailleurs, le nombre de participants, on l'a dit, est quand même faible, mais c'est assez étonnant, en fait, quelque part. Ça sera intéressant de faire cette expérience sur plus grande échelle pour avoir une idée un petit peu plus précise, un peu plus circonstanciée, on va dire, bien sûr, mais c'est assez étonnant. Et donc, ce titre de l'article, et que j'ai retrouvé plusieurs fois sur différents médias, « Les larmes de femmes pourraient envoyer des signaux chimiques qui diminuent l'agressivité masculine ». C'est bon, je vous laisse sur cette information et on va écouter un autre titre et puis on se retrouvera pour terminer cette émission sur l'antenne de Graphite. Ah, ça s'arrête comme ça. J'attendais sereinement, paisiblement. Et en fait, non, ça s'est terminé comme ça. Headspace, c'était Sharon Van Etten sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et bon, il y avait un moment, il fallait quand même que je parle de cet article qui... vous êtes peut-être à table, je suis désolé, mais on va parler de des cadavres humains en décomposition. C'est un sujet un peu particulier, la décomposition de la matière organique morte. C'est celle qui produit quand même des nutriments essentiels pour les écosystèmes, ce qui entretient la vie, évidemment. On va dire, bon, c'est un cycle, en fait. Et des chercheurs de l'université de l'État du Colorado aux États-Unis se sont intéressés à ce sujet peu ragoûtant, il faut quand même le dire. Il est connu que le climat et l'emplacement d'un corps humain ont un impact sur la rapidité avec laquelle il se décompose, mais dans la revue Nature Microbiology, je vais y arriver, les chercheurs racontent aujourd'hui comment ils ont découvert que quel que soit l'endroit où un cadavre humain est déposé, quel que soit le climat de cet endroit, quelle que soit la période de l'année, eh bien, ce sont les mêmes micro-organismes, surtout des bactéries, des champignons, ils sont une vingtaine, les mêmes qui se retrouvent à faire un festin, des micro-organismes qui s'avèrent en plus particulièrement rares dans les environnements où il n'y a pas de cadavres. Ces travaux font avancer la connaissance sur la dynamique des écosystèmes, car les réseaux de ce décomposeur identifié pourrait ne pas être spécifique aux cadavres humains. Ces connaissances pourraient ainsi aider à en apprendre plus sur les flux de carbone et de nutriments dans l'environnement, avec des applications pratiques à trouver peut-être dans le domaine de l'agriculture. Mais la découverte pourrait aussi faire progresser la médecine légale, car les chercheurs précisent que ces 20 types de micro-organismes qu'ils ont identifiés suivent toujours la même routine, et ils sont portés jusqu'au cadavre en question par les insectes qui s'en nourrissent à des moments précis après la mort. Donc on aurait quelque part une datation efficace de la décomposition de ces cadavres humains. Mais voilà, et tous les cadavres humains en décomposition ont un étrange point commun. Voilà, je ne ferai pas de transition ni de commentaire, et on va parler alors. On va finir cette émission par des petites brèves. Déjà, on va parler des Vikings. Tiens, je trouvais ça intéressant, je fais un peu de bruit, je suis en train de retrouver mes feuilles. Je trouvais intéressante cette petite brève que l'on trouve dans le Science et Avenir, qui parle des Vikings, donc... des caries, bien sûr, des dents en moins, mais aussi des soins. C'est une équipe de l'université de Göteborg en Suède qui a trouvé sur des squelettes vikings. Au total, les chercheurs ont examiné à peu près plus de 3000 dents provenant de différents individus enterrés sur un site particulier entre le 10e et le 12e siècle. Et leur examen à l'œil nu ainsi que des radios ont révélé que près de la moitié de cette population présentait une ou plusieurs caries et qu'en moyenne, chacun avait perdu deux dents. La prévalence des caries est bien corrélée aux résultats d'autres populations européennes de la même période. C'est ce que confirme Pierre Baron, dentiste et président de la Société française d'histoire de l'art dentaire. Je ne savais pas qu'il y avait un art dentaire et qu'il y avait notamment une Société française d'histoire de l'art dentaire. Il explique ce qui surprend le plus ici, ce sont les traces de soins. C'est-à-dire que sur certaines caries, il y a des trous qui ont en effet été pratiqués, probablement afin d'épancher le puits et de soulager la pression provoquée par une infection. Une opération qui est toujours pratiquée aujourd'hui. Et si les dentistes vikings pratiquaient en priorité l'arrachage de dents, eh bien ils possédaient aussi certaines connaissances dentaires. Et ça, on ne le savait pas. Et voilà, ils avaient quand même des bons dentistes, les Vikings, et c'est ce qu'on a pu voir justement en étudiant ces dents. Voilà, ces 3000 dents, il y en a qui ont des métiers passionnants. La Société française d'histoire de l'art dentaire. Non, je n'en reviens toujours pas. l'université de Budapest en Hongrie qui nous explique que certains chiens affichent des performances cognitives hors du commun au point de connaître le nom de plus d'une centaine de leurs jouets. C'est ce qui ressort d'un projet de science participative. Le projet s'appelle Genius Dog Challenge, le challenge des chiens géniaux, lancé il y a 5 ans. Et ils ont identifié 41 de ces surprenants compagnons dans 9 pays. Il n'y en a pas encore en France. Et donc, c'est essentiellement des border collies qui sont réputés pour l'intelligence. Ils arrivent donc justement à pouvoir reconnaître le nom de plus d'une centaine de leurs jouets. Si on leur dit « va chercher Patapouf », eh bien, ils vont chercher Patapouf, en fait. La science participative, ça peut être intéressant. Il y a aussi 3 labradors et un pékinois qui font partie du palmarès. Mais il n'y a pas de chien français. Il y a un effort à faire, là, mes enfants, parce que sinon, on est un peu ridicule quand même, là. Là, vous êtes en train de boire une bouteille d'eau. On constate qu'il y a une nouvelle technique de microscopie laser qui a permis de déterminer qu'il y avait en moyenne 240 000 particules de plastique par litre dans 11 marques d'eau en bouteille. 240 000 nanoplastiques, des particules de plastique dans nos bouteilles d'eau. On ne se rend même pas compte. Dans une bouteille, hein, 240 000. C'est assez étonnant, assez inquiétant d'ailleurs. Il y a eu pas mal d'articles qui ont paru il y a quelques jours en plus sur l'utilisation de certains filtres. Il y a au niveau de l'industrie agroalimentaire et notamment au niveau de l'eau en bouteille, pas mal de choses qu'il va falloir, à mon avis, essayer d'améliorer de façon rapide et efficace si c'était possible. Il y a une étude qui a été menée au Mozambique et en Tanzanie qui montre que les grands indicateurs, qui est une espèce d'oiseau, collaborent avec les hommes pour les guider vers des ruches à miel. Ils répondent plus volontiers aux appels des humains qui proviennent de leur propre région. L'analyse des enregistrements de différents signaux émis dans plusieurs régions pratiquant cette quête partagée indique qu'il s'agit d'un rare phénomène de évolution culturelle, c'est-à-dire que les oiseaux et les humains collaborent à la recherche du miel. C'est totalement fascinant, vous pouvez regarder sur internet, vous trouverez des articles qui expliquent un petit peu plus en détail cette étude de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Mais voilà, ça se passe au Mozambique et en Tanzanie. C'est totalement fascinant de voir cette collaboration efficace. Chacun, quelque part, c'est du gagnant-gagnant, bien évidemment. Et puis on va terminer cette émission avec un petit café, bien sûr, que vous allez prendre. Quelle est l'astuce chimique pour avoir un expresso plus intense? Eh bien, avant de moudre des grains de café, il faut ajouter une petite quantité d'eau pour obtenir des expressos à la fois plus intenses et plus homogènes, tout en réduisant de 10% la matière première utilisée. C'est la conclusion d'une étude du département de chimie de l'Université d'Oregon aux États-Unis qui montre que lors du broyage des grains, les forces de friction créent de l'électricité statique sur les particules de café, ce qui conduit ces particules à interagir, à s'agglutiner et à s'accrocher sur le moulin. Le niveau de torréfaction et le diamètre des particules pourront influencer la quantité de charges électriques, mais le facteur prédominant, c'est le taux d'humidité des grains. Et donc, si on fait un soupçon d'eau, un soupçon pas comme à la maïté, un vrai soupçon d'eau, c'est-à-dire 20 microlitres par gramme, donc c'est pas grand-chose. Eh bien, ça pourrait réduire ainsi au minimum l'électricité statique, donc ça réduit la formation des grumeaux. Lors de la percolation du café, eh bien, l'eau chaude sous pression se diffuse alors de manière plus complète, plus uniforme, avec un temps d'extraction plus long et davantage d'arômes libérés. Les expressos seront par ailleurs beaucoup plus similaires d'une tasse à une autre. Voilà. Vous savez ce qui reste à faire. Humidifiez un tout petit peu le grain de café avant. Je vous souhaite un bon appétit et un bon café. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite de passer un très bon moment en notre compagnie. En notre compagnie, mais j'allais manger, je pense. Bonne journée, à samedi prochain, au revoir.